Voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'éducation des garçons. Plus souvent punis à l'école, plus souvent en échec scolaire que les filles, la question de l'éducation des garçons a longtemps été négligée. Aujourd'hui, c'est le malaise qui domine. Comment continuer à œuvrer pour l'émancipation des filles sans plomber l'identité masculine des garçons? Comment les libérer d'un idéal viril, un peu obsolète, pour en faire des citoyens responsables, courageux? Eh bien, le chemin est semé d'embûches, tant le sujet finalement est un peu instrumentalisé. Nous allons en discuter avec notre invitée. Bonjour Christine Castelin-Meunier.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone avec nous, Covid oblige. Vous êtes sociologue au CNRS et vous publiez « Et si on réinventait l'éducation des garçons ?» Petit manuel pour dépasser les stéréotypes et élever des garçons libres et heureux. C'est publié chez Nathan, c'est très instructif. Et quant à vous les parents qui vous nous écoutez, si vous vous interrogez sur vos garçons dans la famille, appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On attend bien sûr les mères au sujet de leurs fils, mais aussi les pères, car en une seule génération, il s'est tout de même passé beaucoup de choses. Allez, je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Christophe est à Lomé, au Togo. Il est papa de 3 garçons et de 2 filles. Il nous dit « Moi, j'élève tous mes enfants de la même manière. Je respecte la personnalité, la sensibilité de chacun d'eux. C'est une technique héritée de mon père. Avec mes fils, je n'ai pas trop de problèmes dans leur éducation. » Joshua a 18 ans, étudiant à Brazzaville. Il a 2 sœurs. Et il dit « Moi, ce que j'ai appris de mon éducation en tant que garçon, c'est que être un homme, c'est pas le contraire d'une femme. Et quand je suis devenu un homme, eh bien en fait, j'ai juste supprimé ce qui est propre à l'enfant. Être un homme, c'est être responsable. Et mes parents insistaient sur ça avec moi plus qu'avec mes sœurs. » Christine Castelin-Meunier, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? J'ai découvert qu'être un homme, c'est pas être le contraire d'une femme, mais c'est juste être complètement différent d'être un garçon.
Mais je trouve ça super de dire c'est pas être différent, mais bon, ce n'est pas être le contraire. Par contre, la différence, bien sûr, mais non, moi je dirais plutôt chaque individu est différent parce que voilà, il a une personnalité différente. Et ce qui est très important, c'est de réaliser à quel point les hommes et les femmes, et dans le nouvel ouvrage aussi que j'ai publié, les hommes aussi viennent de Vénus, chez Larousse, je le dis bien aussi, à quel point c'est fondamental de réaliser que les hommes, les femmes ne viennent pas de 2 planètes différentes, mais viennent de la même planète. Ce sont des humains, et c'est sûr que ce qui compte, c'est de leur permettre d'épanouir leur personnalité, mais sans se différencier, se distinguer par rapport garçon-fille, l'enfance, l'adulte, tout ça. Non, c'est ça qui compte.
En même temps, les garçons et les filles, c'est quand même pas tout à fait la même chose, on va l'entendre dans des témoignages d'enfants. Un témoignage d'une voisine au Canada, si on l'écoute tout de suite, elle a posté sur WhatsApp.
Bonjour les voisines et les voisins, je suis maman de 3 garçons, 14 et des jumeaux de 12 ans. Je veux voir mes garçons devenir des hommes courageux et forts. J'aurais eu des filles, j'aurais dit la même chose. Je ne dis pas courageux et fort parce que ce sont des garçons, mais tout simplement parce que ce sont des valeurs dont on a besoin dans ce monde-ci. Cependant, quant aux stéréotypes sexistes du genre un garçon ne fait pas la vaisselle, ne cuisine pas, comme un peu le background d'où je viens, ça, ce sont des choses que je veux casser absolument. Pour moi, le garçon, tout comme la fille, doivent être en mesure de rentrer dans la cuisine et de sortir un repas. Ce sont des choses comme le ménage dans la maison. Je ne dis pas qu'il va devenir carrément celui qui nettoiera la maison à longueur de journée, mais ce sont des choses qu'ils doivent être en mesure de faire d'eux-mêmes et qu'ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un d'autre le fasse pour eux. Quant à pleurer, Je leur inculque en fait qu'il ne faudrait pas mal se sentir si jamais il arrivait qu'ils ressentent le besoin de pleurer, ce qui est tout à fait normal. Merci et bonne journée.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Comment éduquer un garçon? C'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Être un garçon, devenir un homme, paraître viril. Qu'est-ce que tout ça veut dire pour eux? Charlie Dupiot a posé ces questions à des enfants en région parisienne. Mills, 12 ans, et puis tout de suite une fratrie aussi. Solal, 9 ans, et ses grandes sœurs. Malia, 15 ans, et Lilou, 17 ans. Voilà un échantillon.
Pour certains, ils pensent que les garçons, qu'ils sont juste meilleurs en tout que les filles. Des gens de mon école, mais très peu pensent ça. Des fois, très rarement, mais des fois, les garçons et les filles font des gens ensemble, mais très souvent, c'est séparé.
Et alors, c'est-à-dire, les garçons, ils jouent à quoi et les filles, elles jouent à quoi?
Garçons, plutôt foot et pervier, et les filles, chat. Mais je comprends pas pourquoi ils jouent pas ensemble.
Enfin, pour moi, c'était un peu le cliché où il y avait les filles à droite qui jouaient des jeux de filles et à gauche, les garçons qui jouaient des jeux de garçons.
Les jeux de filles, qu'est-ce que c'était?
Du coup, les Barbie ou papa et la maman. En général, c'était ça.
Est-ce que toi, Solal, ça t'arrive de pleurer?
Oui, de rire et de souffrance. Quand on y réfléchit, c'est juste de l'eau qui sort de nos yeux. C'est bizarre, mais ça arrive à tout le monde.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, virilité? Est-ce que tu connais ce mot, toi?
Je pense que j'ai oublié ce que ça voulait dire.
T'es quelqu'un de fort, que t'es plus fort que les autres,
Être le meilleur.
C'est surtout aussi physiquement aussi, ta corpulence, ta pilosité, de la façon dont tu parles. Par exemple, cette vision où on doit forcément faire l'amour le premier. Enfin, moi, je le vois encore. Alors que pour moi, c'était un cliché. Mais je le vois encore dans certains potes garçons que je vois. Je vois encore que c'est important.
Faire l'amour avant leurs amis.
Oui, c'est ça. C'est vraiment un combat. Et puis, même si ça dure 5 minutes, c'est super important. Et puis, moi, j'ai un ami qui est gay et qui l'a su depuis déjà quelques années. Et l'année dernière, dans les vestiaires où il y avait des garçons, il se faisait injurier en disant va dans les toilettes, dans celle des filles, t'es pas un mec. Bref, de la méchanceté. Parce que pour eux, il était efféminé, donc c'était pas un garçon. Et le pire dans l'histoire, c'est que les garçons qui font ça, quand on leur parle et qu'ils sont seuls, pas face aux autres, ils sont pas du tout comme ça.
Je m'appelle Miles, j'ai 12 ans. En fait, au début, je trouvais un peu que les filles, c'était des extraterrestres et que c'est juste, elles aimaient jouer à la poupée et moi, j'aimais d'autres trucs et tout.
C'était de quand à quand, tu dirais?
C'était de la maternelle jusqu'à à peu près le CM1. Et moi, je suis en quatrième, là. Déjà, je n'osais pas trop leur parler parce que je me disais, elles sont différentes, donc ça me faisait un peu peur. À chaque fois que tu voulais faire un truc avec elles, elles disaient non, je préfère faire ça. Et du coup, après, par exemple, elle pleurait beaucoup plus facilement. C'est que, par exemple, j'ai remarqué un truc. C'est que j'avais un ami, on faisait un jeu où, en fait, on faisait semblant de se bagarrer. Et en fait, il y avait une fille qui avait voulu jouer avec nous. Elle avait commencé à crier, elle était allée parler à celui qui surveillait la cour, une maîtresse. Et du coup, en fait, je m'étais dit, elles sont un peu plus sensibles. Je m'amusais plus avec des garçons, quoi.
Toi, justement, est-ce que tu pleurais à l'école ou devant tes copains?
Oui, parce que parfois, il y avait des moments... évidemment, on essayait tous de faire les durs, de pas pleurer devant les amis, mais il y avait des moments où on pouvait pas, on se retenait pas. Parce qu'on se faisait compter fort, on se faisait mal. Je me souviens juste d'avoir un copain, en fait, j'étais un peu jaloux parce qu'en fait, il pleurait jamais. Lui il pleure jamais, il tombe pas, quand il tombe, il saigne, il se fait pas mal. Du coup, moi j'étais jaloux parce que moi je pleurais et tout le monde faisait « Ah, il a pleuré !» Du coup, ça m'énervait un peu.
Si je te dis le mot viril, à toi Miles, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire?
Viril, c'est vraiment être limite machiste un peu, montrer que t'es fort.
Et est-ce que toi tu dirais que tu es viril?
Non, pas trop, parce que déjà, je suis encore pas très très grand. Et surtout, bah, j'ai des amis qui sont 4 fois plus grands que moi. Ils vont vraiment plus se bagarrer, par exemple. Et du coup, tu trouves vraiment, tu les respectes un peu.
Si je te parle de modèle, de qui tu pourrais me parler ?
Bah ouais, j'ai des idoles, par exemple, des joueurs de foot, comme Mbappé, par exemple. Parce qu'en fait, bah, vu que j'adore le foot, et bah, j'adore comment il joue. Il s'habille bien, par exemple, il est gentil, il est intelligent, il n'est pas trop débile. Mais aussi, il y a des acteurs, par exemple, Omar Sy. Enfin, je ne peux pas trop lui ressembler, mais... bah, parce que, par exemple, lui, il est noir et moi, je suis blanc.
Et alors, à quels autres hommes tu aimerais ressembler, peut-être plus tard ?
Mon père. J'aimerais lui ressembler plus tard. Parce qu'il est très, très, très gentil. Mais c'est pas, moi, je le trouve pas très, très viril. Il va pas forcément être très content. C'est pas un bodybuilder avec qui fait 2 mètres. Et, mais aussi, il se comporte pas virilement. Enfin, il va pas faire... que regarder du foot, enfin ça c'est aussi des clichés quoi. Il cuisine aussi, il aide dans tous les trucs de la maison. Faut pas, j'ai pas envie d'être viril, d'être énormément musclé, très grand et vraiment de me comporter comme un macho. Enfin ça m'intéresse pas trop.
Christine Castelin-Meunier, c'est pas facile d'être un garçon aujourd'hui.
Oui, en même temps, c'est très beau ce qu'ils ont tous raconté. C'est super. Alors, ce qui me frappe, c'est autour de la terminologie virile. Et du coup, j'en profite pour rappeler une chose essentielle qu'on a complètement oubliée d'un point de vue étymologique. C'est à quel point viril... Autrefois, donc ça renvoie à l'étymologie dans l'Antiquité, Rome, la Grèce, tout ça, viril prenait un E et c'était associé à Vénus. Et donc ça renvoyait à vis, vir, veneror, force de vie et désir ardent de vivre. Et c'est ça qui est extra, c'est qu'en fait ça s'adressait aux filles, aux garçons, aux hommes, aux femmes. Et ensuite, ça, on a retiré le E, et là, ce viril n'a été destiné qu'aux hommes, aux garçons.
C'est devenu exclusivement donc un mot masculin.
Voilà, mais avec cette idée que là, c'était référé aux militaires, à la domination, à la destruction. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, et ça me frappe du côté des garçons que je viens d'entendre, en fait, on est encore un petit peu dans cette problématique de la définition qu'on oublie, alors qu'il faut vraiment la réintégrer, parce que c'est vrai que le terme de virilité, aujourd'hui, est un petit peu dévalorisé, alors qu'il faut véritablement le renvoyer à cette première définition, force de vie, désir ardent de vivre. Et que l'on soit fort, petit, grand, maigre, etc. Non, tout le monde a le droit d'exprimer et de chercher à travers sa personnalité, de trouver, d'exprimer sa force de vie.
Oui, y compris des femmes, donc si je vous ai bien suivi dans votre explication sur l'étymologie.
Exactement.
Du mot. Pendant longtemps, quand même, Christine Castelin-Meunier, on a dit que les garçons étaient privilégiés, privilégiés évidemment dans la société, privilégiés à l'école. On avait des études qui montraient que, inconsciemment, les enseignants à l'école primaire interrogeaient plus volontiers les garçons, ils leur laissaient plus souvent la parole sans même s'en rendre compte. Hein. Et puis, depuis quelques années, la tendance s'est complètement inversée.
Exactement. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. On croyait que les garçons n'avaient pas de problème, alors même que l'Eldorado des garçons est en train d'être ébranlé, véritablement. Parce que, effectivement, 80% des élèves punis à l'école sont des garçons. La majorité, quand il y a des renvois, c'est des garçons. Les punitions, c'est la violence, l'emprise, tout ça, l'endoctrinement, tout ça, ça touche beaucoup les garçons.
Et l'échec scolaire. Et l'échec scolaire, puisque si on prend les chiffres pour la France, mais c'est la même chose dans de très nombreux pays du monde, 10% des garçons de 18 à 24 ans sont en dehors de tout système de formation. Seulement 7% des filles. Retard à l'apprentissage aussi. 13% des garçons sont en difficulté de lecture. 13% contre 9% pour les filles. Ça fait quand même un écart de 4 points. Hein. Et puis, les garçons sont moins diplômés que les filles aussi. 15% pour les hommes qui n'ont que le brevet ou aucun diplôme. 10% seulement pour les femmes. Et puis 29% des hommes ont une licence ou un diplôme supérieur. 29% pour les hommes, 38% pour les femmes. C'est quand même un sacré écart.
Exactement. C'est-à-dire que longtemps, on a pensé que les garçons n'avaient pas de problème, hein, que ça allait tout seul. Et donc, on s'est tourné notamment vers les filles pour les pousser vers l'égalité, ce qui est très bien, et pour les pousser à avoir des bons résultats, etc. Et en fait, les filles ont en tête qu'elles doivent vraiment cravacher pour avancer, parce qu'elles ont en tête que ben, tout n'est pas cuit pour elles, alors que les garçons, aujourd'hui, ont un peu de mal à réaliser que oui, eux aussi, il faut qu'ils se concentrent, eux aussi, il faut qu'ils s'appliquent, eux aussi, il faut qu'ils aient en tête que il faut se battre pour avoir des bons résultats. Et alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a tendance à ne pas pousser les garçons à lire, par exemple. Hein. On a tendance à ne pas les pousser à s'appliquer, à se concentrer. Souvent même, on est bourré d'a priori en disant oui, de toute façon, un garçon, c'est violent. Oui, de toute façon, c'est pas soigneux. Oui, de toute façon, c'est un peu sale, etc. Et c'est un peu comme si on les poussait dans des retranchements. On leur renvoyait des stéréotypes qui sont négatifs pour eux.
Et du coup, ça les pénalise à l'école, du coup.
Exactement, complètement. Et donc, du coup, on leur dit, les maîtres d'école ou les maîtresses leur disent, va jouer plus loin, toi, tu bouscules tout le monde, etc. Et donc, on les laisse vraiment on les emprisonne dans des stéréotypes qui accompagnent le machisme, si je puis dire.
Mais les garçons, on le voit dans une cour de récréation, sont davantage dans l'action, hein, avec le corps, et les filles davantage dans le langage. Ça a été prouvé aussi par des études de psychosociologues.
Tout à fait, tout à fait. Et ça vient d'être dit par les jeunes qu'on vient d'entendre.
Oui.
Effectivement,
ils jouent pas ensemble à l'école quand même, non, en 2020.
Voilà. C'est ça. Les jeunes ne sont pas les mêmes. Mais après tout, pourquoi pas, hein, qu'il y ait des activités qui soient différentes, peu importe. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de communiquer les ressources qui vont permettre aux garçons de s'appliquer, de travailler et de ne pas se sentir dans un monde très contraint où ils n'ont pas le droit de bouger. C'est vrai que dans les pays scandinaves, il y a plus de liberté. Notamment, les enfants peuvent s'allonger par terre pour réaliser le dessin qu'ils veulent réaliser, par exemple. Et on n'est pas en train de contraindre leur corps à l'immobilisme. Donc je trouve que là
donc
encore...
C'est
société...
plus adapté aux besoins des garçons de bouger.
Voilà, mais encore une fois, on a longtemps dit que les filles se contentaient de peu, ne bougeaient pas, etc. Mais en même temps, c'est aussi contraindre les filles. Hein, donc il faut aussi libérer un peu tout ça. Quoi, hein,
quel a été l'effet de la vague MeToo sur l'identité des petits garçons aujourd'hui?
Ce qui se passe, c'est que du coup, on les taxe, on leur reproche presque d'emblée d'être dominateurs, d'être machos. Alors même que, et le problème, c'est que finalement, c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils ne soient pas machos, mais en même temps, on leur renvoie sans arrêt des stéréotypes. Et on veut qu'ils soient forts et en même temps pas machos. Mais en même temps, c'est difficile pour eux de se sentir exister au sein de ces contradictions. Et c'est pour ça que moi je dis, il faut privilégier la force de vie et leur donner les moyens de déployer cette force de vie et arrêter de prendre les garçons en ornière, en contradiction. C'est-à-dire arrêter de leur envoyer qu'ils sont forcément machos. Parce que ce qui compte, c'est qu'ils soient virils, mais pas machos.
Ouais. Voilà. Mais en face, il y a quand même les revendications revendications des femmes et des filles dès l'école, qui demandent maintenant à s'habiller comme elles le veulent, c'est-à-dire avec la même liberté que les garçons. Mais dans les faits, bah, montrer son corps, c'est pas la même chose pour une adolescente et un adolescent. Là aussi, il y a les stéréotypes qui reviennent. Alors, est-ce que l'émancipation des filles est en compétition finalement avec l'identité masculine, le moi profond des petits garçons qui, vous l'avez dit, naturellement, il y a des différences. Les garçons ont besoin de bouger. L'élaboration du langage, l'apprentissage de la lecture se fait autrement, plus tardivement aussi que pour les filles. Et ça, c'est pas une histoire culturelle.
Oui, bien sûr. Donc, et surtout, ce qu'on peut dire aussi. Bon, alors, j'ai envie de dire aussi autre chose. C'est que, bien sûr, c'est pas une histoire culturelle, mais on va quand même pousser les garçons à être plus actifs. Hein. On va leur communiquer des modèles, y compris à travers la télé et tout ça, où on voit des garçons en pleine action, en pleine force, etc. Et on va avoir un petit peu un déficit de modèles pour les garçons, de modèles porteurs et adaptés au contexte de cette société qui est complexe. Mmh. Où on leur demande d'être immobile et en même temps on leur demande d'être fort et d'oser et de prendre des risques et tout ça. Mais c'est contradictoire. Oui,
être immobile, rester sage et en même temps être fort. Effectivement, vous avez bien résumé le paradoxe pour les petits garçons. Alors comment éduquer ces garçons aujourd'hui? On vous donne la parole, les voisines, les voisins. Quelles sont les responsabilités des mères, des pères, les responsabilités de l'école aussi, de la société? Vous avez la parole, vous nous appelez sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41, et on vous donne la parole dans quelques instants, juste après Prends ton time chez
Prends ton time. Où était-il le quand tu squattais en bas? Ils essayent tous de te casser la vibe. Laisse-les, on ne va pas y passer la night, hey. Et je les vois, je les vois. Où était-il le quand tu squattais en bas? Loin des jaloux, loin des tendances et des vagues. La meilleure place est toujours au fond de la place, hey. J'ai de l'indifférence en excédent. Ils n'ont rien d'autre à faire, c'est aberrant. J'ai des albums et des titres à défendre. Des sommes et des récompenses à trérant. Hey, hey, prends ton time, prends ton time. Y'a ceux qui font et puis y'a ceux qui en parlent. À deux c'est bien mais seul c'est beaucoup mieux. Où était-il quand tu squattais les lieux? Prends ton time, prends ton time. Où était-il quand tu squattais en bas? Ils essayent tous de te casser la vibe. Laisse-les, on ne va pas y passer la night, hey. Et je les vois, je les vois. Où était-il quand tu squattais en bas? Loin des jaloux, loin des tendances et des vagues. La meilleure place est toujours au fond de ma place, hey. Et le shackle et le kitty, laisse-moi tranquille, je suis busy. Où étais-tu quand je prenais encore métro de ma city? Mon ami, c'est les verbes. Que j'ai gommé, élimé tes vis en talent. Travaille la chance qu'il m'appelle en illimité. Y'a que dans mes pensées que je me perds encore. Si je continue comme ça, ma fille naîtra dans l'or. Concentré, loin du bloc pourtant. Je m'y sens si proche quand ils disent t'as rien à faire là, t'es trop renard pour ça. Ah là là, pourquoi tu rates? Ce n'est pas pour les femmes. Pourquoi tu tapes? Où est donc ta mifa? Ceci et ça, ce n'est pas comme ça. De te casser la vibe. Laisse-les, on ne va pas y passer la night, hey. Et je les vois, je les vois. Où était-il quand tu squattais en bas? Loin des jaloux, loin des tendances et des vagues. La meilleure place est toujours au fond de la place, hey. J'ai de l'indifférence en excédent. Ils n'ont rien d'autre à faire, c'est aberrant. J'ai des albums et des titres à défendre. Des sommets, des récompenses à trérant. Hey, hey, prends ton time, prends ton time. Y'a ceux qui font et puis y'a ceux qui en parlent. À deux c'est bien mais seul c'est beaucoup mieux. Où était-il quand tu squattais les lieux?
Prends ton time, chez, ouais, le rap, c'est aussi pour les filles. Vous écoutez 7 milliards de voisins en étant direct sur RFI. Comment éduquer les garçons aujourd'hui? Comment réfléchir à l'éducation des garçons? C'est toujours un peu entaché d'un soupçon, une crainte que ça pourrait porter préjudice aux filles si on aidait les garçons à être mieux dans leur peau, puisqu'on l'a dit avec vous, Christine Castelin-Meunier, qui êtes sociologue et vous publiez « Si on réinventait l'éducation des garçons », petit manuel pour dépasser les stéréotypes et élever des garçons libres et heureux. Eh bien, c'est vrai, on l'a dit, c'est pas facile d'être un garçon aujourd'hui. Ils sont plus souvent en échec scolaire. On leur demande à la fois d'être immobile à l'école et d'être fort et de répondre encore aux stéréotypes de la virilité. La virilité dont vous nous avez rappelé il y a quelques minutes, Christine Castelin-Meunier, que au départ c'était un mot qui n'était pas un mot masculin et qui n'était pas réservé aux hommes, hein, puisque ça signifiait force de vie et ça pouvait aussi correspondre à des femmes. Allez, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Voilà, on quitte l'antiquité, hein, on quitte le mot virilité et l'histoire de ce mot et on vous donne la parole.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Une voisine a laissé son témoignage sur WhatsApp.
Je suis la coach Micheline Samet. Je suis coach de parents. Je vis à Douala, au Cameroun. Je reçois au quotidien particulièrement des femmes qui se plaignent des mauvais comportements de leur mari. Il y a des hommes, par exemple, qui sont violents en parole, en acte. Il y a des hommes qui sont violents envers leurs enfants devant la maman. Il y a des hommes qui ne donnent jamais coup de main dans les tâches ménagères, qui ne nettoient jamais rien, qui finissent de manger et qui laissent les assiettes. Toutes ces situations me ramènent dans le cadre de mon travail, généralement, à poser des questions. Est-ce qu'il était comme ça depuis que vous vous êtes rencontrés? Comment s'est passée son enfance? Et plus ou moins, ça ressort que c'est quelqu'un qui a grandi avec son père et puis une autre maman, dont une famille recomposée. Ou alors, c'est quelqu'un dont les parents étaient toujours absents, ils étaient à la recherche de la vie. Bref, c'est un garçon qui n'a pas été éduqué dans le sens où on ne lui a pas inculqué des valeurs. Il n'y avait pas des parents pour le faire. Et ça se retrouve dans sa vie de couple. Et lorsque vous parlez avec certains hommes, vraiment, vous avez l'impression qu'ils sont tout simplement dépassés par la situation. Ils disent, je reconnais tout ça, mais moi, c'est comme ça que je suis. Hein. Où elle me prend comme ça, où elle me laisse, il y a les femmes partout. Vous voyez? Donc, ils ne réfléchissent pas en termes d'amélioration. J'aimerais ici dire aux parents que éduquer le garçon, c'est une priorité parce que lorsque vous ne le faites pas, c'est toute la société finalement qui va stresser. Ça va commencer avec les enfants, la femme à la maison, mais même dans la société, même dans le cadre professionnel, c'est urgent vraiment d'éduquer le garçon parce que finalement, on éduque la tête du monde, surtout en Afrique.
Urgent d'éduquer le garçon. On est en ligne aussi en direct avec une auditrice qui est à Cotonou au Bénin. Bonjour Dovi.
Oui, bonjour Emmanuel Bastide.
Dovi, vous êtes directrice de crèche garderie au préscolaire, hein, c'est ça, à Cotonou?
Tout à fait, je dirige une crèche pédagogique à Cotonou, au Bénin.
Oui, et vous avez entendu le témoignage de Micheline qui s'occupe de parents en difficulté et qui nous disait qu'il fallait urgemment éduquer les garçons.
Je dirais, oui, j'ai entendu ce qu'elle a dit, mais moi, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, je dirais plutôt qu'il faut revoir toute l'éducation. Ce n'est pas que les garçons. Mmh. Il faut revoir toute l'éducation, revoir tous les stéréotypes qu'il y a déjà et remettre tout ça à plat pour repartir sur de nouvelles bases. Mmh. Je sais très bien que c'est un vœu pieux, mais on pourrait quand même commencer. Et c'est ce que moi, je fais dans ma crèche.
Oui.
Ici, à Cotonou. Donc, ici, qu'est-ce qu'on propose? Déjà, je propose de faire visiter la crèche quand les parents souhaitent inscrire leurs enfants.
Oui.
Donc, nous prenons les enfants très tôt, hein, de 2 mois jusqu'à 4 ans inclus.
Oui.
Uh-huh. Donc, et aussi, on fait aussi un micro-centre de loisirs les mercredis après-midi, les samedis et aussi pendant les vacances scolaires.
Oui.
Donc, quand on propose aux parents de faire visiter la crèche, évidemment, dans une crèche, nous avons des coins mimes. Donc, on a le coin lecture, on a les petites voitures, on a des établis, on a tout ça. Et aussi, on a un coin coiffure, donc un poste de coiffure où il y a tout ce qu'il faut pour se coiffer. Mmh. Aussi, on a un coin cuisine avec dinette, casserole, tout ce qu'il faut pour une cuisine, pour que les enfants se sentent bien. Donc, quand je fais visiter ça, et les parents, et quand je dis les parents, et les mamans, et les papas sont très contents, et soit j'entends comme « Ah, ben ça c'est bien ça, les enfants vont bien jouer », ou j'entends « Mais ça c'est pour les filles ».
Le coin cuisine.
Et donc là, oui, voilà, le coin cuisine et le coin coiffure.
Oui.
Donc là, je suis dans mon rôle de pédagogie, puisque quand on veut éduquer des enfants, il faudrait aussi expliquer ce qu'on veut faire aux parents.
Eh oui.
Pour que les parents puissent adhérer à ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que je fais? J'explique. J'explique et je dis que et les femmes et les hommes ont tous les mêmes besoins. Donc, partant de là, les enfants, tout enfant doit savoir se débrouiller à la cuisine, à la maison. Donc, il n'y a pas de tâche dites réservées aux femmes.
C'est ça. Et donc, les filles de jouer voilà. aux mécanos et aux petites voitures, si elles en ont envie, bien évidemment, faire des jeux de construction.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et justement, chez nous, c'est ça. C'est vraiment un self, les jouets sont un self-service, pour ne pas dire. Et voilà, les filles jouent aux jeux de construction, à la voiture. Enfin, vraiment, c'est comme on veut. Et à ma grande surprise, quand l'affluence, c'est-à-dire pendant les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires, je suis très surprise de voir des petits garçons jouer au restaurateur, au cuisinier, des choses comme ça.
Mmh. Est-ce que vous voyez des filles qui vont jouer à des jeux de construction, par exemple?
Tout à fait. Mmh. Au Lego, à des jeux de construction. Mmh. Nous avons un grand jeu de construction de ville et je vois les filles jouer à ça.
Ah oui. Non mais je vous pose la question parce que vous savez quand on regarde les métiers en France, hein, parce que certains auditeurs se disent en Afrique c'est urgent, il faut faire des choses, faut éduquer les garçons, mais quand on voit le genre des métiers en France, c'est quand même pas mal les stéréotypes. Hein, 64% de filles en médecine, quand même un problème, hein, 85% dans les formations paramédicales et sociales, 92% de filles en coiffure esthétique. Donc, vous voyez, pourtant, voilà. À la crèche, on les a laissés jouer à tout. Hein, et 1% de filles en bâtiment, construction et couverture hein, dans les formations technologiques et techniques. Donc, voilà, quand même, il y a quand même un problème et ce n'est pas simple à résoudre. Merci en tout cas beaucoup, Dovi, de nous avoir appelés. On va donner la parole à Altiane aussi qui souhaite nous parler de son... Bah, peut-être rester en ligne avec nous, Dovi, vous aurez peut-être un conseil, je ne sais pas si vous avez... Oui, voilà, vous êtes toujours en ligne. En tout cas, vous pouvez continuer à nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis un message de Fatoumata qui a posté de Conakry en Guinée. « Les garçons dans ma famille sont libres, ils peuvent sortir dans le quartier. Les filles, elles, sont réprimandées. Et quand j'en parle avec mes parents, ils me disent que les filles ne sont pas comme les garçons. La preuve, elles tombent enceintes. Je réponds que si elles tombent enceintes, c'est qu'il y a un garçon pas loin. » Et là, mon père se tait à chaque fois. Christine Castelin-Meunier, que vous inspirent tous ces témoignages ?
Ah ben moi, ce que j'ai entendu de ces femmes qui se sont exprimées, je trouve ça très intéressant. Et donc, c'est très important, notamment, de changer de posture à l'égard des garçons et des filles pour virer les stéréotypes. Et en ce qui concerne les hommes, puisqu'il en a été question, il est bien évidemment fondamental que les hommes s'impliquent dans la prise en charge de leurs besoins. Ça fait partie de la responsabilité des humains, que bien sûr il y ait comme ça un partage des responsabilités éducatives, domestiques entre les hommes et les femmes autour de l'éducation des garçons, des filles.
Sur le mélange des jouets, vous êtes évidemment, vous adhérez à ça ?
Ah, le mélange des jouets, c'est parfait et c'est tout à fait important de réaliser que, oui, par exemple, un garçon petit adore passer le balai, adore passer un chiffon sur les vitres, sur tout ça, et on a tendance à l'empêcher en disant, oh ben non, va faire autre chose, va chercher une voiture, des trucs comme ça.
Ouais. Alors que... Ce qui veut dire qu'attendez, quand vous dites un petit garçon, quand il est petit, il adore passer le balai, passer le chiffon, mais souvent, il reproduit ce qu'il a vu à la maison et souvent parce qu'il a vu sa mère le faire.
Hein, oui, mais non, c'est ça que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est que les jeunes pères, comme je l'ai dit, j'ai pas arrêté de le dire, aujourd'hui, la nouvelle norme quand même du côté de la paternité, c'est d'être un père impliqué, responsable, qui est présent à la maison, eh bien, les pères passent aussi le balai et les petits garçons voient le père aller chercher une balayette, une pelle, etc. Et il le fait. Et ça m'impressionne, quoi. Et donc, ce qui compte, c'est effectivement la transmission de modèles d'identification. Et malheureusement, dans certaines familles, ça ne se fait pas, un peu comme si c'était tabou, comme si c'était vraiment à l'opposé de la virilité que de s'occuper des besoins quoi, de chacun, d'assumer les besoins de chacun, alors qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, les nouveaux modèles vont vers autre chose. Ouais.
Alors, vous nous parlez des mamans, des papas, et évidemment, c'est important de comprendre comment se reproduisent les stéréotypes. Et vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41, puisque on se pose la question comment éduquer les petits garçons aujourd'hui. Astou est à Dakar aujourd'hui, en ligne avec nous. Bonjour Astou.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 22 ans, vous avez grandi avec vos frères, aînés, petits frères, je ne sais pas.
Oui, oui, j'ai 5 frères et 2 sœurs. Oui. Je suis la cadette.
Oui.
Et ça n'a pas été toujours facile car on nous a éduqués dans le sens où ce sont les filles qui s'occupent des tâches ménagères. Mm-hmm. Et eux, en tant que garçons, ils ne faisaient rien. C'est-à-dire après l'école, eux, ils allaient jouer au foot.
Ah oui.
Ou bien ils regardaient la télé. Or, c'est nous, après les cours, qui allions. On va aider nos mamans sur les tâches ménagères.
Ouais. Alors, il y avait 3 filles, 5 garçons, et les 5 garçons regardaient les filles travailler, en gros.
Oui, exactement. Ils ne faisaient rien. Ouais. Pour eux, c'est normal.
Et alors, ça, c'était votre enfance. Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins adulte. Hein. Vous avez 22 ans.
Oui, oui, effectivement.
Et
j'ai alors, 22 ans.
Et qu'est-ce qui se passe pour vos frères maintenant?
Bah, actuellement, la plupart sont mariés.
Oui.
Sont mariés. Certains se sont engagés dans l'armée.
Oui.
Et maintenant, vu leur situation actuelle, leur mentalité a évolué.
Oui.
Parce que la plupart sont mariés, d'autres même ont des enfants, des filles. Et voilà, ils ont changé de mentalité un peu.
Qu'est-ce que vous constatez sur ce changement de mentalité?
Bah, je pense que ça a changé à cause de l'Internet. Parce que maintenant, avec la mondialisation, les mentalités changent et tout est connecté. Et aussi parce qu'ils ont dû quitter le cocon familial, à savoir aller à l'école et rencontrer d'autres personnes, d'autres mentalités.
Mmh. Et concrètement, qu'est-ce qui vous surprend au quotidien quand vous les voyez, quand vous allez chez eux?
Bah, que maintenant, c'est plus comme avant. Genre, ils ont des filles, comme je vous l'ai dit, et je pense pas qu'ils pensent que maintenant, la rôle d'une femme ou bien de la fille soit juste pour les tâches ménagères et autres. Je pense qu'ils veulent que leur fille soit plus devenir quelqu'un ou bien quelqu'une. Et ça, c'est pas un état court pour nous. Ça va se réaliser.
Et vous, Astou, vous n'avez pas encore d'enfants?
Non, je suis célibataire.
Si vous avez des garçons, comment vous allez les élever? Vous savez, vous vous êtes posé la question?
Oui, je pense que je vais les éduquer de la même façon. Genre, il n'y aura pas beaucoup de différences, surtout pour les tâches ménagères ou bien la famille. Je pense que je vais les sensibiliser à savoir que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on connaît forcément affiner aux tâches ménagères, qu'on est plus que ça.
Merci Astou de nous avoir appelé de Dakar. Alors Christine Castelin-Meunier, il ne faut pas non plus qu'on réduise le débat uniquement à des tâches matérielles à la maison, parce que c'est bien beau de dire que les garçons doivent aussi participer à la marche de la maison, mais néanmoins, comment faire pour qu'ils s'épanouissent dans leur identité masculine ?
Oui, tout à fait. Et ça, je le dis beaucoup parce qu'en fait, je suis très optimiste et je le dis beaucoup dans... Et si on réinventait l'éducation des garçons, que finalement, on ouvre un certain nombre de domaines aux filles, mais on a tendance à rester très frileux pour ouvrir aussi un grand nombre de domaines aux garçons, alors que c'est très très important aussi de leur donner, de leur communiquer des ressources éducatives qui vont leur permettre d'être eux aussi créatifs, d'avoir accès à un grand nombre d'activités qui parfois leur sont interdites. Pourquoi ? Parce que ça fait pas viril, etc. Et donc, à quoi vous pensez,
par exemple ?
C'est la danse, c'est ça qui vient tout de suite. C'est des choses comme ça, ou même se diriger vers des professions qui sont des professions du care, ou l'enseignement, par exemple, dans les petites classes.
Le soin aux autres personnes.
Voilà, le puériculteur, etc. Alors, on sent bien que là, il faut que ça bouge aussi. Ouais. C'est-à-dire que ces salaires soient mieux rémunérés, alors que c'est des salaires qui ne sont pas bien rémunérés parce que c'est réservé aux femmes. Donc on sent bien que là, il faut ouvrir tout ça pour que ça change véritablement.
Et parce que ce n'est pas le secteur marchand aussi, il faut bien le reconnaître.
Oui, bien sûr, mais on va aussi vers une société où on a besoin de liens et d'empathie.
Ça, c'est sûr, plus que jamais aujourd'hui. Exactement. Christine Castelin-Meunier, on a des auditeurs là, qui poussent en standard pour s'exprimer. On a un jeune garçon aussi qui nous appelle, Adine, 26 ans à Brazzaville. Bonjour Adine.
Ok, moi je voulais bien faire ce témoignage parce que c'est une expérience personnelle. Depuis 3 ans déjà, je vis seul, loin de la famille. Et j'ai compris tout un tas de choses par rapport à l'éducation que j'ai reçue de ma mère, où je suis à même de tenir ma maison, de répondre aux besoins des tâches ménagères et tout le reste. Et c'est vraiment le témoignage que je souhaitais partager parce que, notamment chez nous ici en Afrique, il y a une culture un peu trop... autoritaire de l'homme, disant que voilà, l'homme ne peut pas faire la vaisselle, les tâches ménagères sont réservées pour les femmes. Alors aujourd'hui, moi, je vis toute la réalité, tout le contraire de cette réalité parce que je suis seul, je suis entre le boulot, l'école et la maison et tout ça me prend énormément du temps. Mais avec l'éducation que j'ai reçue de ma mère, je m'en sors parfaitement bien. Et voilà un peu le témoignage que je voulais bien partager.
Ouais, alors vous avez peut-être, j'imagine, un message. Je crois que là, votre témoignage est un message pour votre maman, finalement, hein, de félicitations. Mais est-ce que vous avez un message à passer à votre père ? Parce qu'on n'en a pas tellement parlé des pères encore.
Là également, il y a un autre aspect qu'il faut que je souligne, c'est que mon père également n'est pas, on pourrait dire, un flemmard. Permettez-moi le terme. C'était aussi un papa travailleur à la maison. Et quand il est à la maison, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas là assis toute la journée. Il peut intervenir dans les tâches ménagères et il nous obligeait tout le temps. Alors là, c'est un autre témoignage. Il nous obligeait tout le temps quand il est là. Il faudrait que la maison soit propre. Il faudrait qu'on tienne la maison comme il faut. Et voilà. Donc c'est un peu ça.
Eh ben voilà, on a bien compris le message. Merci beaucoup Adine. Maëmina aussi est en ligne avec nous. Je crois qu'elle a un message très court à passer, Maëmina, qui est à Douala au Cameroun. Bonjour Maëmina. Maëmira, pardon. Est-ce qu'elle est en ligne avec nous ? Ou pas ? Non, on l'a perdue. En tout cas, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il y a vraiment une responsabilité des femmes, elles-mêmes aussi, dans l'éducation des garçons. Aujourd'hui, Christine Castelin-Meunier, peut-être pour revenir au père, est-ce que c'est plus compliqué d'éduquer des garçons aujourd'hui de la part des pères, finalement ? Parce qu'on sent que les mamans sont souvent un peu exaspérées par leurs fils, qui sont brouillons, etc., qui ont de moins en moins envie de tolérer ces écarts, alors que les filles sont plus disciplinées, plus fidèles à la consigne donnée. Mais alors, qu'en est-il pour les papas ? Ça sera le mot de la fin, Christine Castelin-Meunier.
Oui, c'est pas facile. Et en fait, moi, c'est ça qui me frappe, c'est que les papas sont finalement très exigeants. à l'égard de leurs garçons, mais en fait ils sont aux prises avec des contradictions parce que ils ont du mal à leur témoigner leur amour, ils ont du mal à leur dire qu'ils sont beaux, ce qu'on fait avec les filles un peu plus naturellement, et donc ils ont du mal aussi à leur faire des compliments, alors qu'il faut véritablement accompagner l'éducation des garçons dans ce sens, et il faut bien sûr les responsabiliser, bien sûr les impliquer, mais en même temps leur témoigner une certaine admiration, ce que les papas ont du mal à faire, je trouve. Ils sont un peu timides dans ce sens. Alors que vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il faut comprendre que les garçons n'ont pas des modèles porteurs à leur disposition pour s'identifier, parce que ce qu'on leur montre dans les médias, etc., ce sont des héros qui sont éloignés de la réalité quotidienne.
Oui. Alors que les filles ont des rôles modèles aujourd'hui. Hein.
Exactement, les filles, on les pousse en avant, alors que les garçons, il y a un peu ce sentiment qu'ils sont dans une chute de piédestal, et alors même qu'il faut les accompagner.
Je crois qu'on a bien compris, hein, accompagner les garçons pour les aider à être bien dans leur peau, dans leur masculinité. Merci à vous Christine Castelin-Meunier, vous êtes sociologue au CNRS, vous publiez « Si on réinventait l'éducation des garçons », petit manuel pour dépasser les stéréotypes, élever des garçons libres et heureux, c'est publié chez Nathan. Merci à vous, très bonne journée Christine Castelin-Meunier. I get those goosebumps every time I need the Heimlich. Throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Doheny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucin' in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Or back the fuck up off me. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. I wanna press my light, yeah. I wanna press my. I wanna green light, I wanna be like. I wanna press my line, yeah. I wanna take that ride, yeah. I'm gonna press my line. I wanna green light, I wanna be like. I wanna press my. Mama dear, spare your feelings. I'm reliving moments, feeling more residual. I can buy the building, burn the building, take your bitch, rebuild the building just to fuck some more. I can justify my love for ya and touch the sky, forgot to stop the beating wall. Put the pussy on the pedestal. Put the pussy on the high hoops. That pussy the. That pussy to die for. Peter Piper, pick the peppers. I can pick your brain and put your heart together. We depart the shady parts and party hard. The diamond shows the cool forever. My best shot just might shoot forever like. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Demain, 7 milliards de voisins, reportage au Togo, femmes et micro-entreprises. Raphaël Constant est parti à Lomé et en zone rurale à la rencontre de femmes entrepreneuses, couturières, transformatrices de noix de palme, commerçantes d'épices, mais aussi patronnes de start-up. Partout, les freins sont les mêmes, le manque de financement, les difficultés d'accéder aussi au secteur formel. Je compte en tout cas sur vos réactions après le reportage. Ne manquez pas l'émission. Et on vous écoute au 33 7 64 45 51 41. À demain.
7 milliards de voisins, c'est fini.
Ici l'Europe.